l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Voilà, comme chaque jour entre 12h et 13h, c'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi 6 octobre. Même si on n'a plus de gouvernement aujourd'hui, mais nous on est toujours là avec vous et bien en place jusqu'à 13h pour ce Présence Midi. C'est un bonheur de vous retrouver. Dans un instant, nous serons avec le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Ce sera l'invité aujourd'hui de David Torchala dans l'information concernant le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis après, je vous amènerai dans un beau salon. On avait fait la promotion de ce salon des collectionneurs à Soumoulou. Eh bien, on est allé faire un petit reportage en immersion. Et en fait, c'est un trésor quand on apprend plein de choses. Vous allez le découvrir à travers les exposants que nous avons pu interviewer. Et puis, nous aurons aujourd'hui le cardinal Jean-Paul Vesco et le directeur du pèlerinage du Rosaire, même si le pèlerinage du Rosaire, bien sûr, est terminé depuis la semaine dernière. Ils étaient de passage à Lourdes et Mathias Terrier s'est entretenu avec lui. Et vous entendrez donc cette émission de passage donc avec le cardinal Jean-Paul Vesco, bien sûr, si vous faites le grand plaisir de rester en notre compagnie. Tout de suite, on va retrouver David Torchala pour l'entretien qu'il fait chaque lundi pour parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et on le retrouve en compagnie du recteur, le père Michel Dauban.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Nous recevons aujourd'hui le père Michel Dauban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire, un sanctuaire qui célèbre l'année jubilaire. Elle s'est ouverte le 31 décembre dernier. Elle se poursuivra jusqu'au 6 janvier 2026, jour de l'Épiphanie. Alors, on le sait, à Lourdes, c'est une année qui a été marquée déjà par de nombreux grands événements. On en vit un en ce moment où on enregistre cette émission. C'est le pèlerinage du Rosaire avec la participation de plus de 17 000 pèlerins. Nous allons revenir, si vous êtes d'accord, sur cette année jubilaire vécue, ses joies, ses défis, et puis aussi sur les perspectives qui s'ouvrent déjà sur 2026, parce que, voilà, vous, on le sait, vous préparez avec la communauté des chapelains cette année 2026. Déjà, peut-être une première question. Vous confirmez bien, père Michel Dauban, que le jubilé continue à Lourdes.
Tout à fait. Le jubilé à Lourdes continue avec toute l'Église universelle, comme jusqu'à l'Épiphanie 2026, comme vous venez de le dire. La saison des pèlerinages ne se termine que à la Toussaint, donc nous avons encore un gros mois d'activité avec des venues de pèlerinage. Et puis, de toute façon, comme dans la mesure où dans le sanctuaire de Lourdes, nous sommes dans la joie de manière permanente, nous n'allons pas arrêter de l'être à la fin de cette année 2025, en cette année jubilaire. Donc nous jubilons avec toute l'Église et avec tous ceux qui tiennent à venir ici en pèlerinage comme pèlerins d'espérance, effectivement.
C'est vrai qu'ils ont été nombreux, ces pèlerins d'espérance. Alors, vous venez de dire, ils vont continuer encore d'affluer. Mais déjà, on peut noter plus de 25% de passages cet été au sanctuaire, et quasiment le même ratio sur l'année. On pouvait craindre... Alors, le passage, ce sont les passages aux portes hein, des pèlerins que vous mesurez. Est-ce qu'on pouvait craindre que Rome puisse concurrencer Lourdes ou finalement empêcher des pèlerins de venir à Lourdes? C'était une inquiétude. pour vous?
Alors, on pouvait le craindre, et à juste titre, parce que, de fait, un certain nombre de groupes nous ont dit qu'ils venaient moins nombreux, parce que, précisément, certains pèlerins allaient en pèlerinage à Rome, et on le note pour des Français, mais pour d'autres nationalités, et notamment pour les Italiens, qui, effectivement, peut-être depuis aussi le changement de souverain pontife, ont décidé d'aller en pèlerinage à Rome. Donc, il y a ce phénomène, mais après, plus largement, il y a effectivement une augmentation de la fréquentation avec ces passages aux portes qui, pour tous les mois de l'année, même avant l'été, sont assez sensiblement plus importants que l'année dernière, sauf le mois de mars, avec une question de décalage de la date de Pâques, mais c'est pas très très grave. Mais effectivement, on est autour de 23 à 25% d'augmentation par rapport à l'année dernière.
Évidemment, une augmentation de personnes, ça veut dire aussi mettre des dispositifs d'accueil. Il faut toujours pouvoir se mettre en disponibilité d'accueil de ces pèlerins. Qu'est-ce qui, selon vous, a été marquant pendant cette année jubilaire? Je pense, moi, au chemin du jubilé, par exemple.
Tout à fait. Je dirais que cette année, elle a été très, très belle, parce que les pèlerins qui sont venus entendaient bien bénéficier de la grâce jubilaire. Et de fait, j'allais dire, entre guillemets, mais le fleuron peut-être de nos propositions, alors plus pour les pèlerins individuels, bien que les pèlerinages organisés ont pu faire une proposition similaire, ce fut ce parcours jubilaire qui a rassemblé beaucoup de pèlerins et qui a porté manifestement beaucoup de fruits, c'est ce que de nombreux témoignages nous ont révélé. Donc il s'agit tout simplement de s'approprier en tant que pèlerin d'espérance avec Marie, cet évangile des pèlerins d'Emmaüs, pour être invité à se rendre compte que, à partir des joies, des peines, des souffrances, des questions que les pèlerins portaient, il y avait une expression qui était possible. Le Christ les accompagnait à travers sa parole et à travers les différentes propositions pastorales du sanctuaire, avec bien évidemment les sacrements, jusqu'au geste de l'eau, jusqu'à la rotonde de l'autre côté du gave. Eh bien, les témoignages ont été très nombreux et très positifs, à tel point que nous nous disons que pour 2026, et peut-être au-delà, je ne sais pas, dans la mission du sanctuaire, nous avons à proposer un parcours spirituel d'approfondissement d'un texte de l'Écriture qui permet aux pèlerins de partager.
C'est vrai qu'ensuite, les pèlerins se rendent dans les lieux de culte. Ils sont nombreux, 3 basiliques, 25 chapelles pour y vivre les célébrations, y vivre les sacrements. Vous avez souhaité vraiment que la préservation du sacré soit soutenue pendant cette année jubilaire. Vous avez fait un certain nombre de réalisations à la basilique Saint-Pédis, à la crypte et aussi aux piscines. Pourquoi ?
Je pense aussi à la grotte, à l'espace de la grotte qui est le lieu des apparitions, bien évidemment, et pour lequel nous devons porter toute notre attention pour sauvegarder un climat de prière, de recueillement le plus possible. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'essentiel. Et les pèlerins qui viennent dans le sanctuaire veulent des lieux de prière et de recueillement qui soient dignes, dans lesquels ils pourront le plus possible prier, se recueillir. La basilique Saint-Pédis, nous avons refait l'éclairage. J'ai envie de citer aussi la chapelle Saint-Paul VI, qui est absolument magnifique.
Une nouvelle chapelle.
Une nouvelle chapelle qui, de fait, méritait vraiment un aménagement de chapelle, et ce n'est plus une salle quelconque dans laquelle on peut célébrer l'Eucharistie. Donc j'en suis très très heureux, et les quelques pèlerins qui l'ont fréquenté l'apprécient aussi beaucoup. Elle est à découvrir, à redécouvrir. Et puis la crypte, qui a été, j'allais dire, relookée, et qui, elle aussi, est très 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 appréciable.
Donc c'est un embellissement aussi des lieux de culte. C'est nécessaire encore à Lourdes?
Bien sûr que c'est nécessaire. Je pense que nous sommes confrontés à un défi qui est un entretien permanent de l'existant et une projection vers l'avenir qui nous permette aussi de faire des investissements qui correspondront à des lieux, à des espaces qui seront plus exactement ce qu'ils étaient avant. Donc il y a les deux à conjuguer, la gestion courante et le futur, l'investissement.
L'équilibre financier reste une vigilance constante, on imagine, pour vous qui gérez aussi le quotidien du sanctuaire. Qu'est-ce qui vous donne confiance pour l'avenir ?
Ce qui me donne confiance, c'est ben, d'une part la fréquentation qui ne baisse pas, bien au contraire, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi la générosité des pèlerins. Alors, effectivement, qui ne donne peut-être jamais autant qu'on le souhaiterait, parce que nous sommes très très exigeants, c'est vrai, nous avons beaucoup de frais, c'est vrai. Alors, il y a un exercice qui consiste à voir dans quelle mesure nos frais peuvent être contraints. Voilà, nous ne sommes pas les seuls dans cette société et dans ce monde. En cette fin de 2025, je ne fais pas de parallèle avec d'autres entités que l'on peut connaître. Mais de fait, il y a vraiment cette source de la générosité du don qui me donne confiance, parce que je suis vraiment convaincu que dans la mesure où le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est un lieu de grâce, dans la mesure où on permet aux pèlerins de vivre cette expérience de la grâce, de fait, cette grâce porte des fruits, et y compris en termes de générosité et de contribution au fonctionnement du sanctuaire.
Vous dites dans des orientations pastorales 2026 que vous avez écrites à la destination de la communauté d'accueil, voilà, pour se préparer à suivre en tout cas cette feuille de route dans la mise en place des projets 2026. Vous dites sur l'économie du don du sanctuaire, c'est il faut recevoir pour pouvoir donner. C'est aussi ça finalement la mission, c'est recevoir pour donner finalement et transmettre aux pèlerins, c'est recevoir les moyens de la mission qui est confiée.
Oui, je pense que dans la mesure où l'on peut vivre une véritable expérience de foi, de charité, d'espérance, de qualité, et la qualité, elle est là, ça se voit sur les visages des pèlerins, malades ou pas, hospitaliers ou pas, jeunes ou pas, lorsqu'ils repartent, eh bien, de fait, on aime le sanctuaire, et on est vraiment dans une disposition qui consiste à contribuer à sa vie.
Vous dites dans les orientations pastorales qu'évidemment Lourdes attire une grande diversité de pèlerins, qu'ils soient en sein de famille, des jeunes, des personnes en précarité, des personnes étrangères, etc. Comment voyez-vous leur accueil évoluer dans les années à venir, en 2026, mais aussi dans les années à venir?
Je pense que l'accueil, c'est toujours une exigence à se reposer de manière absolument permanente. C'est d'ailleurs un petit peu mon leitmotiv depuis 3 ans que je suis recteur de ce sanctuaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'accueil, il doit plus que jamais se tourner vers les familles. Un certain nombre de familles n'ont pas forcément les moyens de venir avec un certain nombre d'enfants pour se mettre au service des familles d'hospitaliers, voilà, qui ont des moyens qui sont contraints. C'est qu'est-ce que nous mettons à leur disposition pour qu'ils puissent effectivement continuer à venir. Peut-être que aujourd'hui, pour moi, finalement, le plus important, après avoir parlé des familles, c'est les malades. On voit bien que le nombre de malades reçus dans les accueils, pour certains diocèses, augmente parce que la pastorale de la santé, parce que la direction des pèlerinages, parce que l'hospitalité est particulièrement dynamique et sait solliciter, recruter, élargir ceux qui viennent participer. Mais de fait, il faut toujours penser plus aux malades qui ne viennent pas forcément dans d'autres lieux plus nombreux. Voilà. Et dans certains diocèses, il y a un tassement. Et de fait, c'est une préoccupation majeure pour moi, parce que je suis convaincu que un sanctuaire avec moins de malades, voire sans malades, et donc avec moins ou sans hospitaliers, c'est un sanctuaire qui perdrait totalement sa spécificité et qui de fait pourrait vraiment décliner. Donc je crois qu'il faut absolument tout faire pour redire la proposition qui est faite aux malades, avec ce lieu qui est ce lieu de guérison physique, ce lieu de guérison spirituelle, qui est tout à fait majeur et unique au monde.
Après l'épiphanie, le 6 janvier 2026, on clôturera cette année jubilaire de l'espérance, mais elle continuera quand même de couler sur le sanctuaire.
Oui, d'autant plus que nous entrerons dans un triptyque qui nous permettra d'aller jusqu'en 2028, qui correspondra au 170e anniversaire des apparitions, avec une méditation de l'évangile de l'Annonciation, de la Visitation et du Magnificat. Donc le thème pastoral de l'année, après avec Marie, pèlerin d'espérance, ça sera cette parole de l'ange à la Vierge Marie, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Que nous permettions aux pèlerins de découvrir, de redécouvrir, de toujours redécouvrir que le Seigneur nous veut remplis de grâce, nous salue, nous aime de manière inconditionnelle et nous accueille de ce fait-là pour que nous repartions plus forts, toujours dans l'espérance.
Merci Père Michel Dauban.
Avec plaisir.
À une prochaine fois.
Merci aussi à David Tourchala pour donc l'information concernant le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Je vous amène dans un beau salon, celui non pas des hobbies mais des collectionneurs. Vous allez voir que dans ce salon, on apprend plein de choses.
Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Francis Dehaene, nous sommes venus, on avait promis lorsque on a parlé de ce salon, on est venu les exposants, on a fait un petit tour, c'est un succès cette édition.
Ben, je suis content, d'abord parce que tout s'est déroulé normalement, il n'y a pas eu de problème de dernière minute, et les gens sont très très satisfaits de ce qu'ils voient, parce que de nouveau toutes ces collections nouvelles, parce que c'est complètement nouveau, et c'est vrai que ça surprend beaucoup les visiteurs.
Alors vous aviez raison, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on vienne pour s'apercevoir on prend une leçon, mais vraiment une leçon d'histoire. Là, je me suis arrêté longuement sur le stand médecin où la personne nous dit, mais il n'y a pas d'objet médecine, mais je vais vous présenter qui est derrière, et on apprend des choses.
Ah oui, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait c'est une exposition qui est gratuite. Donc, où les gens viennent pour partager avec les exposants, il y a toujours des histoires merveilleuses. Hier, quand on a fait l'inauguration, d'habitude, on dit ça dure une demi-heure. Une heure et demie, parce qu'ils s'arrêtaient à chaque stand. Et j'arrivais pas à me sortir de cette inauguration.
Et bon, et bien voilà. C'est une belle édition. On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver sûrement l'année prochaine pour une nouvelle. Il y a les pompiers qui sont là, qui présentent des anciens véhicules. Aussi à l'intérieur.
Oui, voilà, donc aujourd'hui on voulait mettre à l'honneur les pompiers, parce que c'est vrai qu'ils ont été très sollicités sur cette année 2025. Mais c'est vrai que c'est toute une histoire, notre salon. C'est vraiment un truc qu'il faut venir voir. Oui. Et je suis content aujourd'hui que vous soyez venu, mon cher Philippe, parce que c'est vrai que faire des interviews comme on les fait chaque année, tant qu'on n'a pas vu...
On ne sait pas, et vous aviez raison. Très belle édition. Merci beaucoup, monsieur Dehaene. Nous sommes au salon des exposants ici à Soumoulou, et on est arrêté dans un stand un peu particulier où on peut s'y tromper. On parlait de médecin, mais il n'y a rien sur la médecine. En fait, vous avez pris un autre parti pris.
Oui, alors ici, nous avons à rappeler cette présentation Sacré Toubib, où on présente des profils de dentistes, médecins, pharmaciens, que l'on connaît soit par leur nom, mais ou que l'on ne connaît pas, mais dont on connaît soit une réalisation qu'ils ont faite. Par exemple, Agatha Christie, on la connaît pour ses romans, mais en fait, Agatha Christie est pharmacienne.
D'accord.
Voilà. Nous avons Francis Lopez, qui est connu pour ses opérettes. Mais en fait, Francis Lopez est un dentiste.
D'accord.
Voilà.
Et on a aussi, j'avais Sherlock Holmes. Et vous
alors,
dites que...
voilà, l'auteur de Sherlock Holmes, Conan Doyle est un médecin. Voilà, donc le but, en fait, c'est pas de présenter des instruments de médecine, vous n'en avez que deux, en fait, au total, mais de présenter des réalisations qu'ont fait ces médecins en dehors de leur métier de médecin.
Ils ont été presque plus connus par leur réalisation que par le fait qu'ils soient médecins ou pharmaciens.
Voilà, souvent c'est ça. C'est souvent, on va ignorer que le créateur du guignol, Mourguet, était un arracheur de dents, l'ancêtre du dentiste. Hein, que l'inventeur de la barbe à papa, Morrison, c'était un dentiste. On connaît la barbe à papa, mais on ne sait pas que c'est un dentiste qui l'a fait. Hein. Le docteur Doléris, le docteur Doléris qui est de Limbeil, était un obstétricien. Et il a été passionné par tout ce qui est viticole, vigne et autres. Et donc, quand on parle de Doléris, on parle plus du promoteur du Vic Bill que de l'obstétricien. Voilà, c'est...
Et Parmentier, il y a Parmentier...
Parmentier, dont on parle souvent une Parmentier, le hachis Parmentier, on ne sait pas que Parmentier, tout simplement, c'est un pharmacien qui a toiletté la pharmacopée française, qui a fait la promotion de la pomme de terre pour lutter contre les famines, en fait.
Parce qu'on ne consommait pas la pomme de terre au début, c'était pour les animaux.
Voilà, la pomme de terre en France n'était pas consommée, on en avait peur, on la connaissait. Mais Parmentier avait été, nous, étant prisonnier dans sa jeunesse en Prusse, avait été nourri par la pomme de terre. Donc il connaissait la valeur nutritive de la pomme de terre et il en a fait la promotion, tout simplement. Voilà.
Vous êtes collectionneur depuis combien d'années et comment vous êtes venu cette idée vous-même, vous êtes dans la médecine ?
Non, alors moi je suis pas. J'ai été militaire. J'ai travaillé beaucoup dans le patrimoine militaire, les archives, les musées et autres. Actuellement, je suis réserviste aux écoles de santé de Lyon. Voilà, où j'enseigne un petit peu l'histoire de la médecine aux élèves. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas docteur. Voilà, pas du tout. Et là, je collectionne depuis une trentaine d'années. Donc en fait, le but, voilà, c'est ça. C'est d'amener les gens sur un moyen détourné à la médecine.
À la médecine et à l'histoire. Parce qu'on passe un bon moment en vous écoutant et on apprend des choses dont on ne soupçonnait pas.
Voilà, c'est d'aborder l'histoire de manière un peu ludique. Hein, et puis d'essayer de comprendre comment ces gens, comme je vous ai expliqué pour la mitrailleuse, quel a été le raisonnement du médecin pour inventer la mitrailleuse.
C'était pour sauver des vies. Ça me paraît antinomique, mais...
C'était au début, Gatling se dit, ben voilà, si on peut réduire le nombre de combattants et remplacer ces combattants par une machine qui a même puissance de feu, il y aura moins de combattants, il y aura moins de morts.
C'était son raisonnement.
Guillotin et Louis vont faire la promotion de la guillotine pour humaniser la peine de mort, pour éviter toutes les tortures que l'on faisait avant une exécution, comme pour Damien, ainsi de suite. Mais Guillotin, quand il va apprendre qu'on va surnommer cette machine la guillotine, il va déprimer, quoi. Vous voyez, donc c'est voilà. C'est quel impact également ont eu ces réalisations sur la vie de leur auteur. Et encore, on aurait pu en présenter beaucoup plus, on aurait pu présenter Rabelais pour Gargantua, on aurait pu présenter un autre qui n'a pas été médecin, qui n'a pas été pharmacien, qui a été simplement étudiant en pharmacie, c'est Jean Lefebvre. Voilà, Jean Lefebvre. Hector Berlioz, qui était étudiant en médecine, mais qui a fait de la musique après. Donc, on a été un peu réduit par la place, mais bon, on aurait pu en présenter facilement une dizaine de plus, quoi.
Alors, dans ce salon, il y a des gens qui viennent de tout horizon de France. Vous venez d'où, personnellement?
Nous, on est des régionaux de l'étape. On vient de l'Ouaye, à côté de Tarbes. Hein. Et puis, on vient régulièrement. On prend un thème médical différent chaque année. Bon, on connaît l'organisateur. Et voilà, on évolue autour de la médecine, mais sur des axes différents, quoi. Des approches différentes.
Un grand merci à vous.
Je vous en prie, monsieur.
On continue notre petite visite dans cette exposition et là, on tombe sur un stand de casse-noix. Il y en a un peu de tout. Il y en a en bois, il y en a en métal, il y en a des humoristiques aussi, parce qu'il y en a une avec Hillary Clinton qui est assez marrante. Et oui, et George Bush, effectivement, également. Ce sont des objets. Comment vous en êtes arrivé à vouloir faire une collection de casse-noix? L'objet est magnifique. Il y a vraiment de très, très beaux objets.
Oui. Alors, donc, moi, je suis collectionneur dans l'âme. C'est parti d'une autre collection. Je collectionnais les bouchons articulés et les figurines Henri. Et donc, j'ai trouvé l'objet très beau. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire une collection de casse-noix. Et au fil des annonces que je voyais, je voyais déjà une diversité pour d'objets pour casser les noix. Donc je suis parti comme ça. Puis j'en trouve.
On vous les donne, on vous les achetez?
Je les achète. Je fais des salles des ventes, je fais des brocantes professionnelles plutôt. Dans les vides-greniers, on en trouve un peu, mais on trouve des récents beaucoup. Dans les brocantes, on en trouve beaucoup plus. Les brocantes professionnelles, voilà.
Il y a beaucoup d'objets. Est-ce qu'il y en a un, sur tous ces casse-noix, qui est votre préférence, hein?
Moi, j'aime bien les objets en bois. Je suis menuisier de métier. En bois, il y en a vraiment des très, très beaux.
Il est magnifique,
oui,
là.
Oui, hein? Oui, oui. Mais autrement, en bois, vous voyez, vous avez celui-ci. Celui-ci, moi j'ai toujours pensé que c'était asiatique.
Alors, là, alors, on va essayer de le décrire parce qu'à la radio on ne voit pas les images, mais voilà. C'est une sorte de chien ou de
ouais, un dragon.
Un dragon, hein, plutôt.
Voilà. Et donc, bon, il y a du détail, vous voyez, c'est perforé et tout. Moi j'ai toujours pensé que c'était asiatique. Les dragons, là, comme on voit beaucoup en Chine et tout. Et puis en fait, j'ai découvert dans un bouquin de salle des ventes, une vente Drouot, en fait, il est français. Il est français, ce casse-noix. C'est impressionnant.
Il y a une vis. Voilà.
C'est un casse-noisette, en fait. C'est pas un casse-noisette.
On met la noisette et puis on visse et puis elle se craque. Voilà.
C'est ça. Ouais.
Sous la gueule du dragon.
Voilà, tout à fait. Ouais.
C'est en bois, c'est magnifique. Quoi.
Ah oui. Ou alors celui-ci, vous voyez, quand on voit le détail.
C'est le portrait d'une mamie, quoi, on va dire.
Oui, un petit peu, oui.
Ou d'un lutin, plutôt.
C'est ça. Mais quand on voit le détail sur le bois et tout, en général, c'était en bois de buis, ou alors du noyer, ou alors enfin des bois fruitiers aussi, beaucoup. Quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de détails. Donc là, celui-ci cassait les noisettes.
Voilà, et on le fait par la bouche, voilà. Ouais.
C'est ça.
Voilà. Et on mettait la noisette et on serrait comme une pince.
Oui, et c'est très résistant. Hein. On a peur d'appuyer dessus, mais tout compte fait, moi, celui-là, il me sert chez moi pour casser les noisettes. Donc, mais c'est très résistant. Hein. Ouais.
Vous venez d'où ? Parce que je sais que dans cette exposition, il y a des gens qui viennent de toute la France. Vous êtes d'origine d'où ?
Alors, je suis originaire de Loire-Atlantique. Une commune qui s'appelle Thoiry, à côté de Nantes, à 12 km de Nantes. Voilà.
Et vous êtes venu jusqu'à Soumoulou.
Voilà, c'est la deuxième année. La région me plaît bien. Et puis bon, je passe quelques jours après. Là, je repars pas tout de suite. Hein.
Vous allez profiter de notre région.
Voilà, tout à fait. Oui, je vais aller faire un petit tour, 2 ou 3 jours. Là, je vais rouler un petit peu dans le coin.
Merci beaucoup, toujours. Bonne exposition.
Merci beaucoup. Au revoir.
Allez, on continue notre petit parcours dans ce salon, dans cette exposition. Et là, on s'est arrêté sur une exposition d'étiquettes de fromage. Et en passant, vous disiez que vous aviez tout mangé. Alors, on a des caprices des dieux, on a de la vache qui rit, et puis on a un peu de tout.
Un petit peu de tout. J'ai tout mangé avant vous.
Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir collectionner ?
Mais j'ai commencé cette collection-là, j'avais 10 ans. Donc, j'ai 70 ans maintenant. Donc, imaginez tout ce que j'ai à la maison.
Hein ? Vous les avez tous mangés ?
Ah non. non. Je rigole. Non. Non, j'ai commencé, j'avais 10 ans.
Et qu'est-ce qui vous a fait que vous avez voulu collectionner ça ? C'est quoi les images ? Il y a une histoire dans les images ?
Oui, regardez comme elles sont jolies vis-à-vis de ce que vous trouvez maintenant. Elles sont belles, regardez.
Oui. Alors, c'est sûr que les auditeurs ne voyaient pas. Il n'y a pas l'image, mais ce sont des images de. Voilà, on a des. Elles datent de quand, ces images-là, par exemple, qu'on voit ?
Je ne sais pas trop.
C'est plutôt dans les années 30, 40, 50,
50, 60. Non, j'en ai pas décidé que ça. Moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans, donc dans les années 60. Mes premières datent des années 60 à moi. Les miennes. Oui.
Et on a pratiquement tous les fromages.
Oui, j'ai tout. J'ai tous mes classeurs à la maison, des classeurs. Rangés par thème, et après, ils sont rangés par série, enfin, tout. Par département, tout est rangé correctement.
Et c'est le plaisir des yeux.
Oui, parce que regardez que les oiseaux, les étiquettes comme ça, vous sentez.
Fauvette, voilà, le phénix. C'était quoi comme fromage ? Ça, des fromages à tartiner,
Ça, c'est des vrais fromages, des camemberts, hein, c'est des camemberts.
Des camemberts.
Regardez ça.
C'est magnifique. On dirait presque des tableaux.
Oui, c'est ça, mais c'est ça. Je trouve que c'est malheureux qu'on ait plus des belles photos comme ça.
Oui.
Parce que maintenant, l'étiquette de maintenant, il y a des codes barres sur le dessus du fromage.
Oui.
Imaginez. Vous savez ce que je vais faire maintenant ? À la maison, quand je vais rentrer, je vais acheter des fromages. Comment je vous dirais bien ? Moche, c'est ce qu'à le dire. Je vais faire un tableau comme ça et je mettrai un tableau d'étiquette qui n'a rien dessus.
Bien,
vous pouvez avoir avant et l'étiquette de maintenant et après. Oui, mais je vais le faire.
Eh bien, écoutez. On vous reverra peut-être l'année prochaine avec de nouveaux tableaux. Merci beaucoup, madame.
De rien, c'est gentil.
On continue notre tour dans ce salon. Et là, on s'arrête sur des objets qui sont en quoi ? En céramique, en porcelaine ?
Porcelaine, faïence, métal, verre. Il existe plein de matériaux différents.
Et donc, quand je suis passé devant votre stand, vous me dites c'est joli. Je vous ai dit c'est joli. Vous me dites vous savez pas à quoi ça sert. Je vous dis ça ressemble à des théières. Et vous me dites pas du tout. Ça sert à quoi tous ces jolis objets qu'on a ?
Alors, ces objets s'appellent des biberons de malades. Cette appellation date de 1514. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ça sert à donner à boire aux gens qui sont alités. Donc, quel que soit l'âge, 10 ans, 50 ans, 90 ans, ce sont des gens qui ne peuvent pas se relever pour boire. Et la forme permet de verser le liquide tout doucement, de façon à ce que la personne ne s'étouffe pas.
D'accord. Alors, vous m'avez fait voir ce qu'il y a aujourd'hui, qui est moche, qui est en plastique.
En plastique, tout à fait. Maintenant, on utilise du plastique. Eh bien, quand on n'aura plus de plastique, eh bien, je pense qu'on va retourner à ceci, mais plutôt en verre. Parce que le verre est inaltérable et recyclable à l'infini. Alors que pas la porcelaine.
Et pas la porcelaine. Voilà. Ah, d'accord. Et pourquoi vous avez voulu faire cette collection? Parce qu'il y a des objets de partout.
Nous avons tendance à collectionner des objets insolites, de façon à faire découvrir aux gens des objets qu'ils ne verront peut-être pas ailleurs.
D'accord.
Et voilà, et en général, les gens sont assez contents de ce qu'on peut leur apprendre.
Et parce que, bien sûr, quand on s'arrête à votre stand, vous nous racontez un peu aussi l'histoire de chaque objet, à quelle époque il a été fait et où il a été.
Alors, c'est très compliqué à savoir les dates exactes. Je peux vous dire que j'en ai un en état qui est fin 18e, début 19e, ça je le sais. Après, c'est compliqué.
D'accord. Mais ils sont beaux, certains sont décorés, certains sont blancs, certains ont de la peinture dessus, il y a des fleurs, je vois, voilà. Il y a la Croix-Rouge qui a été dessinée.
Tout à fait, alors donc vous en avez de la Croix-Rouge, mais vous avez aussi différents pays, hein, puisque nous en avons un chinois, nous en avons un japonais, nous avons un portugais, nous avons des belges, qui sont pris pour des longouis, qui ne sont pas du tout des longouis. Hein. Mais alors ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est beau, parce qu'à l'époque, les gens étaient principalement soignés à domicile, et donc il fallait que l'objet soit presque plus joli que utile.
D'accord.
Parce que quand les gens rentraient dans la chambre voir le malade, ben, il fallait qu'ils voient des jolies choses autour. Et donc c'est pour ça que vous en avez qui sont très décorés. Voilà.
C'est magnifique. Bravo pour cette collection. Bonne exposition, alors bonne session.
Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.
Présence à Pau 96.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La Mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence.
De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission entièrement consacrée au pèlerinage du Rosaire, avec deux Dominicains. Merci, messieurs, d'être là pour nous faire part de votre expérience de pèlerin, d'abord, sans doute. C'est toute la famille dominicaine qui est rassemblée pour faire que ce pèlerinage du Rosaire à Lourdes soit une réussite, une fête, vous nous le direz, frère Gégou, vous qui êtes directeur du pèlerinage du Rosaire. Et Monseigneur Vesco, merci d'être là comme pèlerin fidèle à Lourdes, vous qui êtes archevêque d'Alger. Alors, j'avais de vous entendre d'abord, je vous disais, sur les pèlerins que vous êtes. Qu'est-ce que vous vivez comme expérience? Non pas au sein de votre responsabilité, mais au sein de votre expérience de croyant en venant à Lourdes comme pèlerin dans ce grand pèlerinage du Rosaire, Monseigneur Vesco.
Ce que je vis, c'est ce que je viens de vivre à l'instant avant de venir. Pour commencer ce pèlerinage, en étant là un peu avant, j'ai fait le grand chemin de croix, voilà, qui est peut-être mon endroit préféré, et j'ai eu envie d'inscrire ces journées dans ce chemin de croix, de confier au Seigneur, et il y avait des groupes de pèlerins à chaque étape, je l'ai fait à mon rythme, et j'étais très très heureux de le faire, donc c'est mon pèlerinage, et c'est peut-être l'endroit le plus cher, avec la grotte, mais ce chemin de croix.
Donc vous tenez à accomplir les actes du pèlerinage, si je puis me permettre cette expression.
En tout cas, j'ai voulu le faire. Voilà, j'ai pérégriné, j'ai marché, et voilà, il y a une montée, une descente, il est physique, il est charnel, ce chemin de croix, et j'y suis très attaché.
Et vous, frère Gégou, comment vous vivez votre expérience de pèlerin? Même si, comme directeur, évidemment, il y a un peu de pression du directeur, mais on en parlera après.
Oui. Comme je le dis souvent à toutes les équipes, avant d'être au service du pèlerinage, nous sommes tous des pèlerins. Oui. Je veux dire, moi, comme tous les autres, et que ce service que je rends ici est en parallèle, de toute façon, au fait que je suis pèlerin du Rosaire à chaque fois que je viens à Lourdes pendant ce pèlerinage. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'ordre, alors je ne suis pas venu sur les 40 ans quand même à chaque fois, mais Le pèlerinage du rosaire, de toute façon, comme pour beaucoup de pèlerins, et donc pour moi aussi, c'est un rendez-vous. Et si on n'y va pas, on se dit, ben, les autres y sont. Nous, on n'est pas cette année. On essaiera d'y aller l'année prochaine, quoi, en fait. Parce que c'est vraiment un bain un bain spirituel, un bain de jouvence. Demain, j'ai prévu de dire dans mon mot d'accueil que nous sommes là pour être vivants et que chaque année, nous venons chercher et renouveler nos batteries pour être vivants, pendant le pèlerinage, bien sûr, mais aussi tout au long de l'année, parce qu'évidemment, un pèlerinage, c'est 4 jours, mais ce sont des 4 jours qui durent un petit peu plus longtemps dans l'année.
Donc la grâce du lieu nourrit aussi le directeur que vous êtes. Là, je prends l'autre casquette qui a la pression d'un très gros pèlerinage, une grosse logistique, des enjeux qui sont conséquents, parce qu'on accueille des personnes par milliers.
Ah oui. Je pense que si j'étais pas avant tout pèlerin, j'aurais déjà rendu mon tablier, parce que c'est quand même une... c'est une pression très très forte, ça fait des jours et des jours que je ne dors pas, et c'est pas par manque de confiance aux équipes, parce que je sais que les équipes sont là, elles ont préparé leur truc, elles sont professionnelles, mais bon, c'est vrai, comme directeur général, on a quand même la sensation que toutes ces grosses choses reposent quand même sur ces épaules, en sachant que s'il y a un problème majeur, forcément, ça va arriver dans mon escarcelle. Donc, c'est pour le bien de ce pèlerinage qu'on accepte d'être un peu stressé ces jours-ci.
Parmi les questions que nous vous poserons, c'est celle du comment on réussit à un tel pèlerinage avec l'accueil singulier pour chaque personne, chaque fragilité, chaque différence. Mais je me tourne à nouveau vers vous, Monseigneur Vesco. Qu'est-ce que vous allez chercher dans un pèlerinage qui s'appelle le rosaire, basé donc sur une prière simple, celle de Bernadette, alors que même vous vivez, vous, dans les grands événements de l'Église, quelque part, je pense au conclave, mais avec une pression aussi, une pression médiatique, des grands événements qui peuvent tourner la tête parfois. Là, vous venez à Lourdes comme pèlerin.
Non, quand je viens à Lourdes pour trouver une grande église, un grand événement. Oui. Je suis pas je suis très incarné. Je suis l'archevêque d'une toute petite église en Algérie, une toute petite église. Et nous venons chaque fois que je viens pas seul. Je viens dans une démarche de pèlerinage avec des pèlerins venus d'Algérie, et c'est important pour nous. Nous nous inscrivons dans l'Église universelle. Et pour moi, c'est venir dans l'Église universelle la plus belle des manières, par la piété la plus simple, la plus humble. Et je crois que ce qui nous fait du bien à nous et à nous, frères dominicains, et à moi en tout cas, c'est de retrouver la grandeur de cette piété toute simple des gens simples de toutes les langues. C'est un énorme bain de jouvence, et pour notre église aussi, se retrouver dans un ensemble beaucoup plus vaste, priant, avec aussi beaucoup d'intelligence, parce qu'il y a aussi beaucoup de conférences, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce pèlerinage. Ça va de la piété populaire à vraiment l'intelligence de la foi aussi, l'intelligence du monde, donc c'est très beau. Et il se terminera par pour ce qui nous concerne, nous sommes venus aussi pour ça, par une pièce qui sera jouée vendredi soir, par des Algériens, l'ami de la dernière minute sur les moines de Tibérine. Et donc pour nous, c'est une grande expérience, parce qu'on va se donner, on s'est donné en Algérie, on va se donner là, grâce effectivement au service du rosaire, du sanctuaire, grâce à la confiance de mon frère Hervé. Ça va être pour nous un grand moment.
Frère Jégou, comment fait-on pour que se vive l'expérience collective qui vient d'être décrite, ce grand événement, et tout en tenant compte de la particularité d'un groupe Alzheimer ou d'un groupe venant de l'archidiocèse d'Algérie, que sais-je. Il y a quelque chose de très spécial qui se joue au sein du rosaire. Le grand nombre et la singularité.
Je crois que la réussite du pèlerinage du rosaire, c'est que nous ne sommes pas les seuls, c'est pas nous qui avons commencé, c'est une histoire très longue, de plusieurs dizaines d'années, et que donc cette histoire a commencé il y a très longtemps, et que nous nous raccrochons à cette histoire de génération en génération. On voit pour les frères, les noviciats se suivent, ne se ressemblent pas, mais voilà, ils viennent au rosaire, et donc ils découvrent aussi cette cette belle aventure du rosaire. Je crois que pour nous aussi, évidemment, le rosaire, ben, c'est quand même le rosaire, c'est la prière des dominicains d'une certaine manière. Et donc voilà, nous sommes nativement aussi dans cette spiritualité-là et dans cette prédication-là. Après, l'organisation fait que à la fois il y a les régions, donc au plus proche du terrain, au plus proche des personnes, au plus proche des pèlerins malades, qui fait que c'est aussi une fraternité qui se construit non seulement donc dans les régions avant le pèlerinage et tout au long de l'année avec les réunions d'hospitalité avec les malades et les équipes de bénévoles qui travaillent, je dirais, en région sur le terrain. Et puis les équipes nationales qui préparent à un autre niveau l'ensemble du pèlerinage. Mais tout ça, finalement, fait cette belle fraternité dans laquelle tout le monde trouve sa place. Comme disait Jean-Paul tout à l'heure, c'est, je dirais, ben, la personne qui vient là pour la prière toute simple du rosaire. C'est aussi les gens qui viennent, par exemple, pour le nombre de conférences que nous proposons, en dehors des grandes célébrations liturgiques. Ça, évidemment, ça fait, je dirais, le cœur du pèlerinage. Mais autour, il y a tout ça aussi, l'intelligence de la foi, de prendre aussi des ressources pour l'année qui vient. Les gens viennent aux conférences, achètent les bouquins des frères, des sœurs et puis des autres personnes qui font les conférences. Voilà, ils ramènent pour justement digérer tout ça après chez eux. Pour les personnes malades, on sait très bien que voilà, ces 4 jours passés dans le cadre de l'hospitalité, c'est 4 jours merveilleux de fraternité où ils oublient un petit peu leurs soucis. Et puis, il y a aussi la grâce de Dieu. Hein, dont nous ne sommes pas propriétaires. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que vous faites comme directeur général pour que la grâce de Dieu soit au rendez-vous. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais la grâce de Dieu, elle est toujours là. Que ce soit à la grotte de Massabielle, que ce soit pendant les sacrements de l'Eucharistie, les sacrements de la réconciliation. Voilà, il y a plein de choses aussi qui nous dépassent. Nous, on essaie d'organiser les choses pour que, ben voilà, les gens arrivent le plus léger possible face à leur Seigneur et qu'ils soient le plus ouverts possible aussi à la grâce qui va leur être faite.
Vous parliez du ciment de la prière, bien sûr, les sacrements, la prédication. Comment se peut-il, et là c'est l'objet de ma question, que la fragilité, les personnes malades, soit aussi un ciment d'un pèlerinage? Ça peut paraître, dans le monde que nous vivons, presque décalé, étonnant.
Ah oui, mais
singulier, on se dit.
Oui, mais c'est parce que les personnes malades, fragiles, ils ont quelquefois une force dans la foi, et plus forte que, je dirais, ma foi à moi. Je suis souvent, enfin, en admiration devant la foi de ces personnes malades, certes fragiles. Corporellement, fragiles de toutes sortes, mais dans leur cœur, ils ont une foi, mais alors à déplacer les montagnes, comme dit le Christ. Et donc c'est ça aussi qu'il faut voir à travers ces personnes qui sont sur l'esplanade, quelquefois handicapées, quelquefois qui ne bougent pas, mais quelle force spirituelle, quelle force dans la foi ils ont pour vivre leur handicap et puis continuer à vivre avec ce handicap.
Toujours sur cette question de la fragilité, Monseigneur Vesco, dans un monde qui nous bouscule, qui fragilise nos valeurs aussi, vous diriez que Lourdes peut être un lieu de réconfort ou un lieu qui, en tout cas, là c'est le prédicateur que vous êtes, auquel je m'adresse, qui peut regaillardir, redonner de l'élan, de l'espérance?
Oui, bien sûr. C'est un lieu de réconfort pour ceux qui nous réconfortent, c'est-à-dire que c'est un lieu de réconfort pour les malades. Effectivement, les malades sont au cœur du pèlerinage, ils seront 1000, pour ceux qui sont en mobilité réduite, puis il y a tous les autres malades, donc ils viennent chercher un réconfort, parfois ils l'attendent toute l'année, parfois ils sont dans la solitude, et leur présence est notre réconfort, leur présence est notre espérance, parce que, comme vient de dire Hervé, nous sommes face à des personnes qui sont vivantes, qui sont capables de rire, de sourire, qui n'ont que l'espérance, et qui sont les témoins de cette espérance, qui est le thème de ce pèlerinage, précisément du fait de leur fragilité. Voilà. Et dans ce monde où règne la loi du plus fort, plus que ça n'a jamais été, et on le voit à travers tous les dirigeants mondiaux, c'est à celui qui sera le plus fort que l'autre, eh bien... la force de cette fragilité de celui qui n'a qui n'a que Dieu seul, et puis ses frères et sœurs et la fraternité. C'est un appel. Et nous, frères dominicains, on est plus simple à Lourdes, on est plus humble, on est plus vrai, on est plus fraternel. Ça, c'est un mystère. Et c'est la grâce de Lourdes. Sinon, il y a bien longtemps que Lourdes ne serait plus.
Dans ce monde que vous décriviez, qui peut être oppressant pour beaucoup de personnes, finalement, ça peut paraître dérisoire de venir marcher ensemble, vivre ensemble, un pèlerinage à Lourdes, en parlant de grâce, en parlant de fragilité, en parlant de prédication, de sacrement.
Voilà, c'est la force de l'expérience. C'est-à-dire que quand on le regarde de loin, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font?
Oui.
Quand on va à Lourdes tout seul et qu'on vient un jour parce qu'on a entendu parler de Lourdes, alors on vient sur l'esplanade, il n'y a personne et on est content, on va mettre son cierge, c'est bien, on peut faire une expérience. Mais quand tout d'un coup, on est dans ces processions-là, quand on est dans chaque soirée, chaque retraite au flambeau, chaque procession au flambeau, il se vit quelque chose. Malheureusement, ça peut se raconter, mais ça ne se raconte pas vraiment. Il faut l'expérimenter.
C'est une parenthèse ou bien ça peut se vivre après ?
Alors, c'est tout le problème du pèlerinage. C'est tout le problème de tous ces moments forts. C'est qu'évidemment, on ressort, on ressortira tous le cœur rempli de joie, de force et d'espérance. Et on se dit, plus rien ne sera comme avant. Maintenant, ça va changer. Maintenant, j'ai fait l'expérience qui a changé. Quelque chose change. Et puis après, évidemment, le quotidien reprend ses droits. J'allais dire malheureusement, mais nous sommes ainsi faits. Et puis il y aura d'autres expériences et d'autres façons. C'est pas de la poudre aux yeux. Il s'inscrit quand même quelque chose dans notre cœur à chacun et qui reste. Voilà. Même si on a l'impression que tout est parti très rapidement.
Moi, je crois que c'est un peu l'expérience des disciples au mont de la Transfiguration. Il y a ce moment fort avec le Christ, où ils le voient dans sa divinité, chose inimaginable. Et puis après, ils descendent de la montagne. Et donc, évidemment, il y a eu ce moment fort. Dressons trois tentes, parce qu'ils auraient aimé rester là. Et tout pèlerin du Rosaire aimerait rester là une semaine, deux semaines, trois semaines. Ça leur poserait pas de problème, sinon financier, parce que voilà. Mais donc il faut redescendre de la montagne. Et quand on redescend de la montagne, ça peut faire une sorte de dépression, c'est vrai, ou en tout cas de choc. Mais le Christ est toujours là aussi. Avec nous, il était sur la montagne de la Transfiguration, transfiguré, mais ensuite il est redescendu avec les apôtres dans la vallée. Et donc c'est aussi ensuite, tout au long de l'année, ce compagnonnage avec le Christ, la suite du Christ qu'il faut faire, mais qui est enrichi aussi de ce moment particulier où on se souvient que, tel jour. On a été saisi par je ne sais pas quoi, par une personne qui faisait un geste devant la grotte ou je ne sais pas. C'est ça aussi qui reste en soi pour en vivre après.
Nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez. Juste après, nous vous retrouvons, messieurs, pour continuer à parler ensemble de ce qui se vit au sein de ce très beau et très grand pèlerinage qui est le pèlerinage du Rosaire à Lourdes. À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Nos invités aujourd'hui sont Mgr Vesco, archevêque d'Alger, et le père Gégou, qui est directeur du pèlerinage du Rosaire. Vous êtes, comme on le voit sur les images, ceux qui nous entendent ne le voient pas, mais je le décris, vous êtes dominicain, habillé de blanc. C'est, on peut le dire, le grand moment de la réunion de la famille dominicaine que ce pèlerinage du Rosaire. On a parlé des pèlerins dans la première partie de cette émission, mais j'ai envie de parler de votre famille. En famille, à travers les frères que vous êtes, mais également toutes les congrégations féminines.
Je crois aussi qu'une des raisons de la réussite du pèlerinage aujourd'hui, c'est que c'est une œuvre commune, donc évidemment avec les laïcs, bénévoles, hospitaliers, hospitalières, commissaires, tous ceux qui sont au service du pèlerinage, mais aussi cette réalité de famille dominicaine, c'est-à-dire à la fois les frères de deux provinces dominicaines françaises, et c'est quand même... pas rien que les deux provinces dominicaines soient associées dans la même mission qu'est ce pèlerinage du Rosaire. Alors ça existe aussi pour les équipes du Rosaire, mais voilà, donc c'est un projet commun qui, je pense, réjouit tout le monde aussi, parce que moi j'ai toujours été très heureux à l'intérieur de ces réalités du rosaire, pèlerinage ou équipe, de travailler avec des frères de l'autre province. Et ça, je pense aussi que ça cimente finalement et ça crée des liens entre nous et ça crée une fraternité entre nous autour de ce pèlerinage du rosaire. Et puis après, en effet, il y a les congrégations des sœurs dominicaines qui sont associées aussi, en particulier grâce à leur présence avec des établissements scolaires, puisqu'il y a quand même près de 3000 jeunes au rosaire, alors par les établissements sous tutelle dominicaine, mais pas que non plus. Mais voilà, donc les sœurs dominicaines sont là aussi de ce côté-là. Et puis il y a les laïcs dominicains aussi qui sont présents là et qui proposent des choses pendant ce pèlerinage du rosaire. Donc ça fait, enfin c'est inouï de penser que toutes les branches de la famille dominicaine puissent être réunies dans une mission commune. Et ben c'est ça aussi la grâce du rosaire.
Et vous parlez de famille. Donc moi je suis un dominicain qui vit seul, je suis seul dominicain en Algérie, et depuis 20 ans, nous étions une communauté de 2 ou 3, et j'avoue qu'il y a exactement, c'est exactement ce mot, vous mettez le doigt sur quelque chose de très réel pour moi, j'aime venir au rosaire aussi, parce que c'est une façon, c'est l'une des plus belles façons de me replonger dans un bain familial.
Voilà. Oui, donc la famille. Toujours pour en rester sur les dominicains, vous êtes... faites partie de l'ordre des prêcheurs. Vous êtes des prédicateurs. Vous essayez. Alors justement, j'en arrivais là. Comment annoncer à des foules, ouais. Comment parler d'espérance, tout en ne restant pas sur le degré de l'espoir, mais en allant un cran au-dessus, en regardant au loin, à l'horizon, dans un monde dont vous nous avez dit, dans la première partie de cette émission, qu'il était quand même un peu compliqué, à tout le moins. Comment on fait, comment on prépare, comment on trouve les mots?
Alors, il y a la prédication. Donc, pour un frère dominicain, effectivement, être le prédicateur d'un pèlerinage, c'est un immense honneur, une immense joie. C'est un défi redoutable aussi. Les mots ont été donnés. On verra. Je l'espère. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas. La prédication, c'est annoncer cette espérance, être témoin de cette espérance. On le fait par les mots à ces moments-là. Mais je sais que, en fait, pendant ce pèlerinage, je le serai au moins tout autant et je vais recevoir moi tout autant par tous les contacts, par toutes ces personnes qui seront sur l'esplanade. Alors, on n'est pas dans une position d'enseignant. On est vraiment ce que vous avez dit au début de l'émission, en première partie de l'émission, mais on est pèlerin et on peut être prédicateur parce qu'on est pèlerin, comme l'a dit Hervé. Sinon, c'est pas possible. Donc, on est avec eux, je suis pèlerin et pour eux, je suis prédicateur. Mais comme le disait saint Augustin, en le plagiant un peu beaucoup. Mais la prédication, c'est une immense responsabilité, mais elle est infiniment plus vaste que les mots qui sortiront de la bouche.
Mais c'est aussi un travail en amont quand même, parce que. On veut non pas convaincre, mais toucher.
C'est une année d'habitation. Ah oui. Ce rosaire m'habite depuis un an, depuis que le frère Hervé m'a téléphoné pour me le proposer. En fait,
donc ça fait du chemin dans votre tête.
Donc à un moment, évidemment, on écrit des prédications, à un moment, on prépare une conférence, mais c'est peu par rapport au fait que depuis un an, je suis habité par la perspective de ces journées, et c'est tout ça que je vais vivre. Je m'apprête à vivre une des plus belles semaines de ma vie, et ça c'est important, je m'apprête à faire tout mon possible pour que ceux qui seront là vivent aussi une des plus belles semaines de leur vie. C'est ça qu'on a envie de partager. On a envie de partager sa foi, on a envie de partager.
Donc il y a une forme de lâcher prise là.
Absolument.
Vous-même, comme directeur, forcément, on l'a dit, vous avez de la pression, mais il y a un moment où il faut être attentif quand même à ce qui se vit, ne pas être enfermé dans ces préoccupations qui vous habitent.
Bien sûr, oui, juste titre. Je pense après, il y a des moments, pendant les célébrations, je suis pèlerin comme tous les autres, et je reçois, comme tous les autres. Et sur l'aspect de la prédication, j'aurais tendance à dire que on prêche ce que l'on est. Oui. On prêche. Là où on en est de notre chemin spirituel personnel. Donc, on arrive devant des textes qui sont de ceux du pèlerinage, et puis voilà, on se jette dedans avec ce que l'on est, actuellement. 10 ans avant, on n'aurait pas vu la même chose parce que le chemin spirituel n'était pas aussi long. Et voilà. Et de toute façon, il n'y a pas de recette pour la prédication. Hein. Je crois que évidemment, pour le rosaire, il faut s'imaginer. Enfin, je sais pas, Jean-Paul, comment tu as fait, mais moi, quand je l'ai prêché, je me disais voilà, je vais me retrouver à Lourdes devant cette esplanade avec des pèlerins malades en première place sur l'esplanade, les autres pèlerins. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire de l'amour de Dieu. En fait, c'est ça.
Les dominicains, vous savez ce qu'on dit de vous. On dit que vous êtes quand même plutôt des intellectuels. Enfin, encore, en tout cas, vous avez fait de longues études pour la plupart d'entre vous. Vous travaillez beaucoup intellectuellement. Et vous vous retrouvez pleinement dans un lieu comme Lourdes, dont vous avez dit que c'était un lieu de piété populaire. Je reprends votre expression. Qui peut, d'une certaine façon, être méprisé par certains. Que font-ils? Ils touchent le rocher. Ils vont boire à la source et s'y laver. Il prit le rosaire. Bon. Comment on allie ces deux dimensions de la foi?
Moi, je dirais une image. Vous étiez là l'année dernière au rosaire?
Oui.
Nous avions les reliques de Sainte Bernadette et de Saint Thomas.
Ah, oui.
Qui étaient côte à côte pendant les célébrations, qui processionnaient l'un devant l'autre. Et c'était même Sainte Bernadette qui était la première, puisque, voilà, on est à Lourdes. Et donc, voilà, c'est les deux aspects. Donc, Saint Thomas, docteur angélique, sommité de la théologie, chrétienne. Et puis la petite Bernadette, qui savait son chapelet, qui a eu une vie de religieuse, perdue à Nevers. Mais voilà, ils étaient là, au même rang d'honneur. Parce que, qu'on soit bardé de diplômes ou qu'on soit sans diplôme, Dieu nous regarde de la même manière. Et c'est pas, il nous regarde pas au diplôme que nous possédons.
Oui, vous avez repris ce mot piété populaire. Alors j'enlèverai populaire, parce que c'est la piété tout court. La piété, elle est populaire, oui, parce que c'est la foi des gens simples. Elle se donne à voir par la foi des gens simples, mais c'est aussi un sommet de la foi, la piété. Et d'une certaine manière, justement, à un moment, à Lourdes, on est replacé par cette piété, par cette prière simple, face à la grandeur de l'immensité de Dieu. Et donc, il y a effectivement une expérience théologique aussi et spirituelle profonde, parce qu'en fait, au fond, voilà, cette prière simple et se signer avec de l'eau et boire de l'eau, dit l'immensité, de la grandeur, de l'amour de Dieu, et on en vit. Et je crois que c'est pour ça que les frères dominicains on est heureux de venir au rosaire, justement, de nous simplifier un peu, et la théologie n'aurait aucun sens si elle ne s'inclinait pas. Si elle ne se mettait pas à genoux, non seulement devant Dieu, mais devant cette piété-là.
Il y a une formule du pape François que j'aime beaucoup sur Marie. Il disait, si vous voulez savoir qui est Marie, vous le demandez au théologien. Si vous voulez savoir l'aimer, demandez-le au peuple de Dieu.
Toute dernière question. Considérez-vous que le pèlerinage est une fête, est un moment de fête? Et est-ce possible d'être en fête dans ce monde?
Ah ben, il faut faire la fête dans ce monde contre tout le désespoir qui risquerait de nous anéantir. Donc, il faut faire la fête pour dire on résiste.
On sent bien que les gens sont heureux d'être en pèlerinage.
On résiste, justement. Une vraie joie. Espérer contre toute espérance. Là, on y est, parce qu'évidemment, si on regarde ce monde, c'est plus possible. Oui. Quoi. Oui. Mais cette parenthèse enchantée, voilà. Et donc, vivons là pour vivre encore davantage après, quoi, en fait.
Oui, il y a une joie profonde qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Cette joie-là, elle est imprenable. Mmh. On peut vivre toutes les épreuves, le monde peut vivre ses épreuves. La maladie, au cœur de la maladie, c'est aussi possible de vivre cette joie imprenable. Alors là, d'une certaine manière, par la simplicité de ce qui est vécu, on peut la vivre. Et effectivement, je crois que le pèlerinage du rosaire est une joie, est une fête.
Merci pour vos témoignages.
Merci.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir, merci, bon pèlerinage.
Merci.
Présence.
De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu démissionne moins d'un mois après sa nomination. Les consultations reprennent de plus belle entre les partis politiques.